Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous reprenons la lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt aux éditions Robert Laffont. Nous reprenons la lecture du livre « Vivre à Hébron » dans notre dernier épisode. Nous y avons appris l'attentat qui a endeuillé une famille voisine de June. Mordechai, le père, et Shalom, 19 ans, un de leurs enfants, ont été presque tués à bout portant dans leur voiture, alors que trois des enfants plus jeunes étaient sur la banquette arrière. Pour un, une balle dans le pied, pour le second, une blessure à la main. Seulement, pourtant, ce temps, Myriam, la maman, était, elle, à la maison, avec le reste de la fratrie. Et il s'agissait d'une famille composée de 15 enfants. En ce début d'épisode, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Le chauffeur du bus qui prenait Franck pour aller au travail, ce voisin ayant dû arrêter son véhicule bloqué par un barrage de pierre, il venait de s'arrêter quand un tueur embusqué a déchargé son chargeur sur lui. Que de mauvaises nouvelles! Reprenons quand même notre lecture. 8 décembre. Ce n'était pas la première catastrophe qui frappait la famille Lapide. Il y a 11 ans de cela, Samuel était en classe avec un de leurs fils, Yoram. Un jour de Yom Kippour, Yoram est allé à la Mikwe, une sorte de petite piscine où les femmes vont chaque mois se purifier après leurs règles. Mais durant Yom Kippour, la Mikwe qui était aussi ouverte aux hommes pour leurs ablutions rituelles. Un jour donc, le petit Yoram est allé à la Mikwe avec d'autres enfants. Il est tombé à l'eau et il s'est noyé. Mordechai et Myriam pleurèrent et gémirent. Puis, ils reprirent le goût à la vie et conçurent d'autres enfants. 15 en tout. Il n'en reste plus que 13 vivants désormais. Bézatel, qui a reçu une balle dans le pied, va très mal. Il faudra peut-être l'amputer. 9 décembre, Hanouka. Chaque fois que Hanouka approche, s'approchent aussi les malheurs. Nous sommes allés passer un moment avec Myriam Lapide et ses enfants pendant leur deuil de Shiva. Les enfants allumèrent la première bougie de Hanouka. Les mains jointes autour d'une bougie, ces orphelins ont remercié Dieu pour ses miracles. Le petit blessé à la main, lui, qui a vu son père s'écrouler la poitrine en sang et son frère mourir sur la route, était là avec ses frères et sœurs. Comme les autres, sa bouche prononça les mots rituels « Que Dieu soit béni !» De quoi vous tirez toutes les larmes du cœur? Les journalistes sont nombreux et font le siège de leur maison. Myriam fait de sa vie une affaire publique. Elle se bat plus que jamais pour le transfert des Arabes hors des territoires, une position qu'elle a toujours soutenue. Lundi soir, pendant que son mari et son fils tombaient sous les balles des terroristes, elle tenait un meeting à Tel Aviv. Dans son discours, elle disait « Il faut décider la séparation de deux peuples. Les Arabes et les Juifs ne peuvent plus vivre ensemble. À l'instant même où je vous parle, je me demande quelle sera la prochaine victime sacrifiée sur l'autel de cette paix artificielle. Moi? Vous ?» Notre voisin de palier était son chauffeur ce jour-là. Il l'attendait à l'extérieur de la salle où se déroulait le meeting. Il n'avait pas la radio dans sa voiture, elle avait été volée. Sur la route du retour, Myriam ne savait encore rien. Elle s'est endormie tranquillement sur le siège arrière, jusqu'à ce que la foule des gens descendus dans la rue pour protester contre l'attentat les arrête. Elle se réveilla en sursaut, demanda ce qui se passait. Et quelqu'un la reconnut. Myriam fut très proche de Frank pendant un temps. Ils travaillèrent ensemble à la naissance du parti Modelette et aidèrent à gagner les 2 sièges à la Knesset. Tout à l'heure, elle lui a confié qu'elle vivait désormais dans une sorte d'inconscience, de brouillard obscur. En vérité, si elle prenait vraiment conscience que plus jamais Mordechai ne sera à ses côtés, elle deviendrait folle. Pendant que nous étions chez elle, le grand rabbin est venu présenter ses condoléances. J'avais moi-même grand besoin d'entendre des paroles de réconfort. Il dit que chacun de nous réalise une mission dans les projets de Dieu pour la vie d'Israël, mais que seulement les grandes et pures âmes seront appelées et sanctifiées au nom du divin. Mordechai et Shalom, aussi tragiques que soit leur disparition, sont au nombre de ces élus qui permettent que vienne le jour de la rédemption. Il dit encore que ces meurtres étaient comme la foudre dans un orage de peur. Cela, je l'ai ressenti aussi. Et qu'à leur manière, ils illuminaient les profondeurs de l'obscurité. Il parla d'un sage juif qui perdit un jour ses fils. Comme ses voisins et amis venaient le réconforter pendant les 7 jours du deuil, il leur dit « Vous n'avez pas à me plaindre. Moi, je me réjouis de la volonté de Dieu. S'il l'a voulu, c'est qu'il le fallait et je l'accepte avec joie. » Les fils de Myriam enregistraient les paroles du rabbin sur un magnétophone. Cela leur donnait l'espoir et la force de croire que la tragédie qu'ils vivaient possède encore un sens, un ordre profond et spirituel, que cette souffrance personnelle qui les engloutit peut apporter dans l'ordre universel un peu de bien. Je suis certaine que bientôt, ils vont passer et repasser cette bande et encore pendant les années à venir pour supporter l'absence de leur père qui était tout pour eux et de leur frère Shalom qu'ils aimaient tant. 11 décembre. Vu ce soir les enfants se battre pour décider quel chandelier Frank va allumer, puis ils discutent pour savoir qui va tenir le chandelier. Qui sera le gardien de la lumière? Je les entends entonner la chanson du miracle de l'huile, de cette huile sans pareille qui brûla 8 jours et 8 nuits, tandis qu'il n'y en avait qu'à peine pour une seule nuit. Je les regarde danser jusqu'à n'en plus pouvoir. Et si aucun de nous ne peut oublier Mordechai et Shalom, cela pourtant nous montre que la peine va son chemin à côté du bonheur. Peut-être plus en Israël qu'ailleurs, et certainement plus encore à Hébron. Habituellement, chaque soir, après avoir allumé le chandelier, nous faisons une petite fête en mangeant des beignets à la confiture que les enfants préparent eux-mêmes. Les premiers sont souvent carbonisés, mais au milieu de la semaine de Hanouka, ils soutiennent la comparaison avec ceux du boulanger. Après avoir mangé, tristesse ou pas, nous nous efforçons de jouer. Un jeu des 4 coins, le Svivom, où chacun coin possède une lettre en hébreu. Il y a un enjeu, parfois quelques pièces de monnaie, parfois du chocolat. 13 décembre. Machavim, dans la maison d'accueil du kibboutz. Nous sommes venus ici nous mettre à l'abri des balles perdues. Mais ce soir, à la télévision, nous apprenons que les Arabes ont à nouveau tiré sur un juif près d'Hébron. En l'occurrence, il s'agit de Shlomo Hoana, le chauffeur du car que Frank prend pour aller travailler lorsque j'ai trop peur pour le laisser partir seul en voiture. Shlomo était à 10 kilomètres de Kiryat Arba lorsqu'il a été bloqué par un barrage de pierres. Il s'est arrêté et un tireur embusqué de l'autre côté de la route a vidé son chargeur sur lui. Nous avons vu des images de Shlomo transporté dans une ambulance avec Baruch Goldstein près de lui. Il y avait aussi un reportage sur Bezalel Lapid revenant à la maison sur une civière. Il en sortit de l'hôpital pour qu'il puisse passer le 7e jour de Shiva avec les siens. Pendant ce 7e jour, la famille du mort, ou des morts, hélas, cette fois, se lève et se rend sur la tombe des siens fraîchement enterrés. Et le deuil prend fin. Le petit Bezalel devra subir encore plusieurs opérations. Les médecins ne veulent pas l'amputer, bien que son pied soit gravement atteint. Muscles, os et nerfs ont été touchés. Quelle vacance ! Avant d'aller plus loin dans notre lecture, nous trouvons dans le livre une douzaine de photos. Je vais tenter de vous les décrire, mais ce sont surtout les quelques lignes de l'auteur qui sont sous la photo qui nous donneront une meilleure idée de ce que vous allez voir. Première photo. La famille, le père, la mère et trois des enfants. Comment puis-je dire que je suis seule? J'ai un mari adorable et cinq enfants. Est-ce parce que je suis une plante rempotée dans un terreau qui n'est pas bon pour moi? Au-dessous, la photo de June Oppenheimer à 20 ans avant son mariage. Je ne peux pas croire que j'ai été cette fille capable de boucler mon sac à dos un matin pour aller à la rencontre des Indiens et de leur tipi dans le Vermont. Je tourne la page. Un couple. 20 septembre 1976. June vous parle. Ce fut un beau et chaleureux mariage. J'étais partie en voyage vers l'inconnu dans l'espoir de rencontrer la spiritualité indienne. À la place, j'avais trouvé un mari juif orthodoxe. Puis, une maman et son bébé. June, avec Samuel, son premier enfant, en 1977, dans les Catskills. La maman, encore avec Samuel, un peu plus tard. June avec Samuel, en 1979, dans la forêt où ils habitent. Nous apprenions aux enfants comment planter, cueillir ce qu'était un animal cachère. Nous leur enseignions aussi les commandements liés à la nature. Une nouvelle photo du couple et de trois des enfants. June, Frank et leurs trois enfants en 1982, devant le caveau des patriarches. Selon la légende, Adam et Ève, Isaac et Rebecca, Abraham et Sarah, Jacob et Léa y furent enterrés. Pour les Arabes comme pour les Juifs, c'est un lieu particulièrement sacré. Septembre 1982, sur cette photo, June, Frank et deux des enfants. Le jour arriva où Yossi eut 3 ans. On l'amena au caveau des patriarches. Là, durant une cérémonie où Frank souffla dans la corne de bélier, Yossi reçut sa première coupe de cheveux. Été 1983. Le couple avait 4 enfants. June avec sa famille à Beit Romano. Nous vivions plein d'idéalisme dans une unique chambre, sans eau chaude, sans sanitaire, ni aucune intimité. June, Frank et un des enfants avec le chien. Les gens se remettent à survivre et oublient. Les prés de la ville et de la vallée reverdissent, un calme surnaturel semble venir du fond de la terre. Étrange contraste de ces collines avec la mémoire du sang et de l'horreur. Au-dessous, June parle avec un militaire. L'omniprésence des soldats commence à nous porter sur les nerfs. Ils sont partout, en service de repos, allongés sous les tentes devant l'immeuble. Et l'on finit par se demander ce qu'ils font ici. June et Frank. June est installée à sa machine à écrire. J'écris alors qu'on entend les hurlements juste de l'autre côté de la vallée. Mais je ne veux pas écrire sur la peur. Une dernière photo. June se trouve dans un ensemble de maisons à moitié démolies. La violence sera-t-elle notre compagne éternelle? Ou sa fin appartient-elle à ce futur indéfini qui est aussi celui du Messie? Par essence, elle viendra, il viendra. Mais ce lendemain est repoussé de jour en jour. Et la paix semble vouloir aussi arriver demain, demain, demain. Sera-t-elle jamais un aujourd'hui? Décembre. June pensive. En fait, je pense à ce bienheureux kibbutz où nous nous trouvons. Si les gens disent ici s'ils ont souffert, ce fut dans les années 50 lorsque les premiers pionniers vinrent s'installer ici avec l'idée de rendre le désert viable. Ils combattirent les Arabes et les mirent dehors. Et maintenant, leurs descendants ont une vie paisible et heureuse. Grande tentation de venir vivre dans un endroit comme celui-ci, où le plus grave problème est de savoir qui travaillera à l'étable aujourd'hui. Mais je ne sais pas si Frank ou même moi pourrions être heureux de nous installer en quelque sorte dans l'œuvre bâtie par d'autres. Il me semble, comme toujours, que nous devons continuer notre propre chemin, quelle que soit la difficulté de la situation. Notre bataille, c'est d'élever des enfants capables de penser par eux-mêmes, passionnés, heureux et créatifs. De les voir se marier, avoir des enfants à leur tour, en quelque sorte, planter les racines de notre clan. Mais où les planter? Nous n'avons jamais considéré Kiryat Arba comme le bon endroit pour cela. Même si les colons parvenaient à conserver la Judée et la Samarie sous la loi israélienne, et sans que ce soit le prétexte d'un constant terrorisme, nous-mêmes ne retirerions-nous rien de cette bataille ? Ni terre autour de la maison, ni silence, ni voisins plus attrayants, intellectuellement, ni une vie plus riche. Mais s'ils perdent, nous perdrons tout avec eux. Il n'est pas juste de devoir affronter chaque jour, comme nous le faisons, tous ces risques incroyables pour rien. Les premiers colons ont dû faire la guerre, subir le terrorisme des Arabes, la malaria. Mais ils savaient que, s'ils gagnaient leur place ici, ils posséderaient assez de terres pour s'installer et faire vivre leurs enfants et petits-enfants. Les pionniers américains en ont fait de même avec les Indiens. Ils eurent des ranchs qui s'étendaient sur des centaines d'hectares. Mais notre minuscule tribu des Lévites pourrait-elle se battre pour conserver 89 mètres carrés d'appartements, loués bien difficilement, ne possédant aucune intimité ni tranquillité, et dans une ville où les enfants eux-mêmes jurent qu'ils ne voudront pas passer leur existence. Prendre le risque de payer cela de notre vie ou de celle des enfants ? Non ! Mais tout est bataille ! Frank voudrait continuer d'enseigner au Centre d'éthique biomédicale de l'Université Ben Gurion. Très bien. Sauf qu'on refuse de lui payer son salaire pendant 2 mois. Et moi, je dois finir mon roman, le faire publier. Oh, si je parvenais à en tirer assez d'argent pour que nous puissions partir de Kiryat Arba, créer un kibboutz d'études religieuses ou avoir cette maison de rêve que j'ai vue à Jérusalem. Je sais que nous sommes capables de faire de grandes choses pour Israël. Nous pourrions, avec Frank, fonder une sorte d'académie où la Bible et le Talmud seraient étudiés en contrepoint avec les mathématiques, la théologie, la littérature, l'histoire et la méditation. Pourvu que cela soit encore devant nous et pas derrière. Si nous mourons dans un stupide attentat, ce sera peut-être pour Israël, mais il ne restera de nous que notre nom sur un immeuble petit bourgeois. En effet, certains immeubles des colonies sont baptisés du nom des victimes du conflit avec les Palestiniens. Mais quel ridicule ! Puisse Dieu nous épargner cela. Mes peurs sont-elles à ce point féminines ? Frank, lui, ne craint rien. Il est convaincu que nous ne mourrons que lorsque Dieu le décidera. Le danger n'y change rien. Dieu choisit. Moi, je ne parviens jamais à être en paix avec mes peurs. Je m'inquiète déjà du voyage de retour à Kiryat Arba cet après-midi. Il nous faudra traverser Hébron. C'est vrai, j'ai toujours peur d'une catastrophe. Le pire me semble sans cesse possible. Chaque seconde, je pense que ce qui est arrivé aux autres, au lapide par exemple, peut nous arriver. Et de jour en jour, mon plaisir de vivre diminue. Dieu a ses élus. J'ai vu à la télévision Ariel Sharon, Raphaël Eitan. Il se dégage d'eux une incroyable sensation de confiance, de force, d'invulnérabilité. Impossible de croire qu'une balle puisse les abattre, laissant derrière eux une douzaine d'orphelins. On a même l'impression qu'ils sont protégés contre les tragédies par une aura. Quelquefois, quand soudain je me sens sereine, en harmonie, légère, quand je médite bien, il me semble que, moi aussi, je pourrais être une élue de Dieu, mais très vite. Très vite, je redeviens terriblement vulnérable. Tout sauf élue. Bien plutôt le gibier d'une nature et d'un destin cruel. En fait, il y a toujours 2 portes en moi et toutes les 2 s'ouvrent sur autant de questions. 14 décembre. Le soir, traversée d'Hébron, les enfants et moi sur les nerfs, Franck impassible comme d'habitude. Le Hamas avait promis de nouveaux attentats pour aujourd'hui, en commémoration d'une chose ou d'une autre. Mais de retour à la maison, sans encombre. Merci, merci, oh merci! 17 décembre. Franck et Samuel sont allés voir Bezalel à l'hôpital. Il était assis dans son lit, très occupé à jouer avec un camion téléguidé que sa grand-mère ou sa tante lui a offert. Les médecins pensent qu'il faudra une année avant que les nerfs de son pied puissent se régénérer. Il devra porter des attelles. Tout le monde prie pour lui. Dans une autre salle de l'hôpital, il y a Shlomo Ohana. Il est encore sous le choc et n'a pas reconnu Franck. 25 décembre. Une incroyable histoire. À Soucia, la colonie où Samuel va souvent travailler comme guide pour les touristes, vit un vieil homme nommé Yaïr. C'est un berger juif très dévot, avec des papillotes couleur de blé. Il porte toujours des vêtements rituels, avec les franges et les fils bleus symboliques. Un bleu clair comme celui du ciel, et qui est un souvenir des anciens temps, où l'on obtenait cette teinte avec les sécrétions glandulaires de certains escargots. La plupart des Juifs qui portent les franges rituelles ne le font pas avec des fils bleus, soutenant qu'on ne sait plus comment nos ancêtres en fabriquaient le pigment. Mais certains mystiques les portent, et cela signifie qu'ils possèdent les anciens savoirs. Et il semble bien que Yaïr les possède lui aussi. Chaque jour, il va sur les collines d'Hébron, peut-être sur les pâturages même, où Abraham et Sarah menaient leurs troupeaux. Là, il vit avec le même soleil, le même vent et la même passion spirituelle que ses ancêtres. Et il lui arrive aussi de repousser les troupeaux des bergers arabes, qui franchissent les limites de leur pâturage, simplement en chantant comme il imagine qu'Abraham le fit, en psalmodiant avec passion une phrase de la Bible. Va-t'en, va-t'en, homme de sang et de méchanceté. Tiré de Samuel, chapitre 16. Il s'agit de la malédiction de Shimei, homme de la maison de Saül, envers David, à qui il reproche d'avoir usurpé son trône. Yaïr ne porte jamais d'armes quand il accompagne ses moutons et ses chèvres dans les collines. Abraham n'avait d'autre arme que sa foi. Yaïr est certain que Dieu le protège. Et c'est peut-être la vérité. Alors qu'il était en train de dormir, rêvant aux anges dans une caravane, juste à la sortie de la colonie de Soucia, des terroristes arrivèrent. Ils fouillèrent la caravane, trouvèrent une mitraillette Uzi et des chargeurs dans les toilettes. Ils pouvaient, sans aucun risque, abattre Yaïr, qui serait mort sans même s'en apercevoir. Mais non, ils le laissèrent dormir et partager son sommeil avec ses ancêtres. Et ils se sont contentés d'écrire « Hamas » sur les murs, avec un gros marqueur, avant de repartir. La foi d'Abraham le rendit invincible lorsque le roi Nemrod le précipita dans le feu. En apparence, Yaïr est l'homme le plus imprudent que l'on connaisse, mais il est sorti indemne de sa rencontre avec les terroristes. Alors que Mordechai lapide, puisse Dieu venger son sang, était la prudence même. Et il avait la foi, tout autant que Yaïr. Pourquoi, lui, ne fut-il pas épargné? Dans cette deuxième partie de la lecture, nous avons vu qu'il y a quelquefois des choses étonnantes. Le vieux berger que nous avions quitté au 25 décembre, Yaïr, le berger juif très dévot, fait paître ses bêtes sur les collines d'Hébron et il a souvent du mal à repousser les troupeaux des Arabes, franchissant les limites qui leur sont imparties. Il ne porte pas d'armes, il n'a que sa foi, et Dieu le protège. Témoin cette dernière image. Il est en train de dormir dans sa caravane quand des terroristes arrivent et sans bruit, ils fouillent sa caravane sans le réveiller. Ils trouvent une mitraillette Uzi et des chargeurs. Ils auraient pu le tuer. Yahir serait mort sans s'en apercevoir. Mais non, il se contente d'écrire Hamas en grosses lettres majuscules sur les murs. Étranges ces contrastes. Mordechai et son fils Shalom, tués à bout portant, et Yahir, visité aussi par les terroristes, qui finira sa nuit. Tout simplement, en toute tranquillité. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et que comprendre ? Avec notre prochaine lecture, épisode 10 du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt, aux éditions Robert Laffont, nous continuerons par une nouvelle année qui s'ouvre. C'est l'année 1994. Et nous poursuivrons l'histoire de June et de sa famille. À bientôt, chers auditeurs. N'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.